Si la nature est l'avenir de l'humanité, l'humanité a-t-elle vraiment compris ce qu'était la nature et ce que devraient être nos relations avec le vivant? Dans un dialogue foisonnant et libre, mêlant le passé, les combats du présent, questionnant les concepts et interrogeant nos sociétés industrielles, nos deux invités s'interrogent sur la façon de faire advenir un autre monde respectueux du vivant dans sa globalité. Des peuples d'Amazonie à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ont refait le monde et on envisage les mondes à venir avec eux. Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, professeur émérite au Collège de France, connu pour avoir initié le courant intellectuel de l'anthropologie de la nature. On vous doit notamment les Lances du Crépuscule et puis bien d'autres ouvrages de référence. Et alors, on vous retrouve embarqué par votre co-auteur dans l'aventure d'un livre original intitulé Ethnographie des mondes à venir, un livre paru au Seuil dans la collection Anthropocène. Et ce co-auteur n'est autre que Alessandro Pignocchi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chercheur en sciences cognitives, auteur de BD, comme celle par exemple commise en 2019, on peut la citer, hein, La recomposition des mondes, une BD sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui était parue également au Seuil, si je ne m'abuse. Et puis je précise que dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste du quotidien Le Monde, Martine Vallaud, qui reviendra sur le scandale de la Seine Demersal, un engin de pêche très destructeur pour les écosystèmes et aussi pour la petite pêche artisanale, avec en toile de fond une drôle de bataille politique. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales avec la complicité de Valérie Ernoul, Eva Canneparo, Vanessa Chang, sans oublier bien sûr le service d'actualité de Radio France, réalisé de la documentation d'actualité de Radio France, pardon, réalisé toujours l'émission par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir Jean Frédérics.
Bon alors, cet arbre, il est tombé l'année dernière. Ailleurs, on l'aurait très certainement tronçonné et puis évacué. Ici, ça va pas être le cas. On va vraiment laisser la nature évoluer, c'est-à-dire naître, grandir, faire sa vie et mourir. Le bois mort, ça représente la moitié de la biodiversité. Donc du coup, si on enlève ce bois mort dans nos forêts, on perd la moitié de la biodiversité. Donc là, on voit les animaux qui ont mangé les écorces pour trouver certains minéraux nécessaires à leur santé. Et puis, ici, on voit très certainement les sangliers, puisqu'on trouve quelques poils, qui viennent se frotter pour se déparasiter, en fait, régulièrement, et faire en sorte que leur peau ne soit plus attaquée par puces, tiques, etc. Le réensauvagement, c'est tout simplement laisser faire la nature. C'est-à-dire qu'on va effacer un petit peu l'empreinte humaine, qui est prédominante de partout, et on va simplement dire ce territoire, on le laisse évoluer sans contrainte et sans action humaine. Voilà.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 19 décembre 2021. On était dans le domaine de l'ASPAS, l'association l'ASPAS. C'était dans la Drôme, une réserve de vie sauvage sous l'œil de Clément Roche, un trentenaire expert en environnement. Des reportages qui montrent et questionnent aussi nos relations aux vivants, dits non humains. Alessandro Pignocchi, je me tourne tout de suite vers vous, puisque vous êtes à l'origine de ce livre original, Ethnographie des mondes à venir, et donc un livre original, je dis par sa forme, hein. Est-ce que c'est un essai, un dialogue, il y a des histoires sous forme de BD, enfin tout ça rythme l'ouvrage. Concrètement, l'objectif premier pour vous, c'était quoi?
Il y a une foule d'objectifs comme derrière tout projet de livre, et certains sont sans doute plus avouables que d'autres, mais disons que l'un d'entre eux, c'était d'essayer de jeter un pont entre deux... Je ne sais pas exactement comment il faut les appeler, mais courant intellectuel. L'un, qui est celui dont vous avez parlé, c'est-à-dire qui travaille cette sensibilité naissante au vivant, qui essaye de l'alimenter au vivant ou au non-humain, qui prend acte qu'il y a quand même un déplacement dans les consciences et les sensibilités, et à la fois une peur bien compréhensible de la crise écologique, mais aussi un désir peut-être plus constructif et tourné vers l'avenir de... trouver une façon de se lier aux autres êtres vivants qui peuplent le monde d'une façon plus riche, plus dense, d'une façon qui ne les confine pas au statut d'objet qu'on exploite ou qu'on protège, mais qui les intégrerait d'une façon ou d'une autre, plus intimement à notre socialité. Et ça, c'est vraiment une lame de fond qu'on sent quand même, c'est pas être exagérément optimiste de dire ça, qu'il travaille quand même la société. Pour l'instant, elle reste à l'échelle relativement à bas bruit à l'échelle individuelle, quoi. Elle trouve pas encore de répercussions institutionnelles. Donc, on voudrait faire le point entre les auteurs qui travaillent cette sensibilité-là, qui essaient de l'alimenter, et de l'autre côté, un courant qu'on pourrait appeler peut-être critique néo-marxiste plus classique de la société, qui va parler de rapports de classe, de rapports de force. Et malheureusement, pour l'instant, il y a quand même une forme d'incompréhension mutuelle entre ces deux courants-là, ce qui est bien dommage parce qu'ils sont absolument complémentaires.
Et nécessaire pour faire advenir un autre monde.
Et absolument nécessaire. Et notamment, on avait le projet d'inciter les... C'est très réducteur d'appeler ça néo-marxiste, mais on comprend, quoi, disons une gauche radicale plus classique, à vraiment prendre au sérieux cet affect collectif qui est en train d'émerger, faire l'effort de quitter la matrice productiviste dans laquelle ils sont encore souvent enfermés, et de l'autre côté, inciter tous les auteurs qui travaillent sur le vivant à... dépasser l'échelle individuelle et s'interroger sur les changements institutionnels, les changements structurels, les changements de mode d'organisation politique qui sont impliqués en fait par cette sensibilité nouvelle au vivant, sachant qu'on dit un peu qu'il y a deux options, que soit on accepte l'idée que cette sensibilité émergente pour les non-humains reste cantonnée à l'échelle individuelle, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on incite juste les personnes qui en ont les moyens à s'entraîner toutes seules, à subjectiver les non-humains. Et dans ce cas-là, c'est du développement personnel pour riche et c'est pas tellement la peine d'en parler, quoi. Mais si on veut que ça s'élève à l'échelle institutionnelle, il y a un effort supplémentaire à faire pour comprendre ce que ça implique et quel genre d'institutions et de modes d'organisation sont compatibles avec cette prise en compte des intérêts des non-humains, quoi.
Philippe Descola, c'est ce qui vous a tenté, à la fois un livre pour nous aider à réapprendre à discuter et vivre à égalité avec les plantes, avec les animaux, avec le vivant non-humain, et en même temps un livre d'écologie politique?
Oui, parce que en tant qu'anthropologue, au fond, j'ai tenté une expérience conceptuelle basée sur une expérience de vie. L'expérience de vie, c'est les années que j'ai passées dans une société de la Haute Amazonie, les Achuar, où j'ai découvert, sans doute avec un peu de naïveté, qu'aucun des outils intellectuels que j'avais amenés avec moi, notamment le fait qu'il y ait une distinction nette entre un monde de la nature et un monde de la société, ne fonctionnait. Et ce qui m'a engagé à essayer de comprendre quelles étaient les différentes formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains qu'on trouvait autour de la planète, dont la nôtre, c'est-à-dire une séparation nette entre le monde des non-humains et celui des humains, n'était qu'une variante. Donc c'était une expérience de vie, encore une fois, qui m'a montré rétrospectivement que je pouvais regarder le monde qui m'était familier avec des yeux différents, que ce monde était très bizarre, exotique, au fond, ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que d'un côté, il y a des humains qui sont, qui du point de vue de leur dimension physique, ont des caractéristiques de même nature que celles des non-humains. Ils sont gouvernés par les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Et qu'en même temps, ces humains se sont exaucés au-dessus des autres êtres en arguant en fait de leurs caractéristiques cognitives et morales qui les distinguaient absolument du reste du monde. Or cette façon de voir les choses, comme je m'y suis intéressé toujours à titre comparatif comme un des éléments possibles pour comprendre les différentes formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains, je me suis aperçu que, contrairement à ce que j'imaginais, du fait en partie de mon éducation philosophique au départ, c'était quelque chose de complètement exceptionnel, qui avait une histoire, qui était née à une certaine époque, qui avait commencé à être thématisée par les philosophes au XVIIe siècle, qui n'avait cessé de croître ensuite, et qui était devenue, au fond, l'idée courante, la doxa, la croyance ordinaire de nous tous, y compris des gens qui avaient un entraînement à la pensée réflexive comme je l'avais, et que probablement cette séparation entre humains et non-humains qui nous paraissait naturelle justement, avait un rapport avec la dévastation écologique que la modernité et sa forme la plus extrême, à savoir l'accumulation capitaliste, avait provoqué au fil du temps, et qu'il était temps de réfléchir à une façon différente de concevoir des mondes à venir qui ne soient plus marqués par à la fois l'exploitation des humains et l'exploitation des non-humains. Et il nous a semblé que l'anthropologie était un bon moyen de réfléchir à cela, parce qu'elle nous fournit sinon des formes de transposition automatique, ça va de soi, aucune expérience historique n'est transposable, au moins des stimulations intellectuelles pour imaginer des futurs différents.
Donc, faire en sorte de donner à comprendre que cette séparation, au fond, entre nature et culture, hein, c'est défaire cette distinction, donner à comprendre que ça remonte dans l'histoire de cette construction de l'Occident moderne et de ces sociétés industrielles. Et à partir de là, donc, vous appelez à dépasser ce que vous avez nommé naturalisme et sortir collectivement de la distinction, mais à comment est-ce qu'on peut procéder dans ce cas-là? Et en s'inspirant, parce que vous avez mentionné les Atchuar, et on peut parler des Chuar aussi pour vous, Alessandro Pignocchi, hein, tous les deux, vous avez cette expérience en Amazonie. Peut-être qu'on peut donner à comprendre aux auditeurs, c'est en quoi est-ce que ces peuples peuvent non pas être des exemples, attention, hein, c'est pas le but, mais être source peut-être de réflexion et nous donner une sorte de boîte à outils qu'on pourrait utiliser pour bannir la distinction.
Effectivement, défaire la distinction nature-culture, ça ressemble à un slogan, mais c'est pas anodin, puisqu'elle structure vraiment non seulement nos subjectivités, mais l'intégralité de nos institutions, notamment celles qui sont le plus solidement ancrées dans notre monde, en particulier toutes les structures économiques qui maintiennent en place l'exploitation capitaliste. Le naturalisme et la sphère économique se maintiennent en place l'un l'autre. Quoi. Et donc, c'est déboulonner ça, évidemment, c'est pas une mince affaire. Et on a, en premier lieu, pour démarrer la réflexion, effectivement, on s'alimente intellectuellement au spectacle de population, ce qui est là, en l'occurrence, la vaste majorité si on regarde à l'échelle de l'histoire des sociétés humaines, qui faisait l'économie de cette distinction entre nature et culture. Et chez les Atchuar, donc qu'on fréquente tous les deux, non seulement ils n'ont pas de mot nature, mais si on essayait de leur expliquer ce qu'on entend nous par nature, on devrait faire un effort assez conséquent, et sans doute qu'au final ils comprendraient quelque chose d'assez différent, tant c'est évident pour eux que les plantes, les animaux, les esprits, enfin les non-humains au sens large, quoi, sont des partenaires sociaux avec lesquels on discute, on négocie de façon plus ou moins diplomatique pour partager un territoire commun, quoi. Donc on est très loin des fondements de l'Occident moderne où l'intégralité des plantes, des animaux et en effet une quantité toujours croissante d'humains sont rejetés dans la catégorie des objets, c'est-à-dire des choses qu'on peut exploiter sans aucun égard, sans aucun devoir de réciprocité, et qu'on peut faire entrer dans les échanges marchands en résumant l'intégralité de leur existence à une valeur marchande. Quoi.
Et eux n'exploitent et ne prélèvent que ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport aussi de sobriété pour préserver les écosystèmes, c'est ça?
C'est pas pour préserver les écosystèmes,
l'environnement.
C'est encore un concept qui
leur semble effectivement. Oui, non, on a effectivement le langage de nos sociétés. Vous avez raison de le dire.
À partir du moment où on considère que les non-humains, comme les plantes et les animaux, bien comme des êtres sociaux qui peuvent vous apparaître en rêve sous forme humaine pour se plaindre des mauvais traitements, etc., c'est sûr qu'on a tendance à on a un devoir de réciprocité envers eux. On se comporte. C'est pas des objets avec lesquels on fait n'importe quoi.
Philippe Descola.
Oui, alors il faut se méfier aussi du mythe du sauvage écologique, hein, qui serait par nature d'une certaine façon le conservateur de la nature.
Un vocabulaire qu'ils reprennent eux-mêmes très volontiers quand il s'agit de parler aux
quand il s'agit de parler aux ONG, d'avoir et d'obtenir des ressources, bien évidemment.
Les Atchuar parlent de la Pachamama, ce qui est absolument absent des cultures amazoniennes. Enfin, donc il faut se méfier des discours qu'on voit passer sur...
Il y a des effets aussi indirects, c'est-à-dire que l'expansion démographique qui est en cours en ce moment et qui vient en particulier d'un traitement minimum de la mortalité infantile fait qu'il y a une expansion démographique combinée à la propagation des valeurs de l'accumulation capitaliste qui à terme peut être très problématique, c'est-à-dire quand on aura une population qui sera le triple ou le quadruple chez les Atchuar de ce qu'elle est à l'heure actuelle, avec des gens qui ont besoin maintenant d'argent parce que avec les écoles qui sont nécessaire. L'une des choses que je faisais sur le terrain, c'était au moment du démarrage des écoles, ce qui était en soi une très bonne chose, c'était de fournir des vêtements aux enfants. C'est-à-dire, quand vous êtes un père de famille avec quatre épouses, vous avez 20 enfants et il faut vêtir ces 20 enfants pour les envoyer à l'école. Il n'y a aucun moyen de produire de l'argent pour acheter des vêtements dans ce contexte-là. Donc les circonstances ne sont pas parfaitement idylliques non plus pour les hachoirs. Ils essayent autant que faire se peut de conserver un certain type de rapport, comme l'a dit Alessandro, subjectif, avec les non-humains, mais dans certaines circonstances, leurs voisins, par exemple, les chouars, se sont livrés à une importante déforestation pour des raisons politiques et économiques, c'est-à-dire ils avaient besoin de garantir l'accès à des territoires collectifs ou individuellement concédé par le gouvernement, et la loi en Équateur voulait que 50 hectares peuvent être attribués à une famille à condition que les deux tiers soient mis en valeur. Mise en valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on abat la forêt pour y mettre des vaches, qui est évidemment une absurdité complète. Donc les populations autochtones un peu partout dans le monde sont aussi s'efforcent d'échapper à des contraintes que le capitalisme mondial leur a imposées, en tâchant de continuer à mener un mode de vie à l'intérieur des contraintes qui leur sont imposées.
En tout cas, à travers votre livre, on comprend que le naturalisme serait donc une des conséquences de la crise climatique et environnementale. Alors, on s'empare bien sûr de tous les travers, hein, exploitation, prédation, destruction, et puis dans le même temps, protection, air et sanctuaire du vivant. C'est vrai qu'on est dans le fameux « en même temps », hein, certainement pas toujours tenable. Avant d'en discuter, je vous propose d'écouter ces extraits de son, parce qu'on peut se poser, est-ce que le président français a d'ores et déjà engagé sa mutation? Là, Alessandro Pignocchi, je fais un peu référence aux BD que vous nous proposez, qui sont truculentes et délicieuses, hein, dans le livre. Écoutez ces extraits donc des paroles d'Emmanuel Macron, tout d'abord à Saint-Nazaire, c'était le 22 septembre 2022, et puis ensuite on écoutera ses propos donnés à Chamonix, et c'était en février 2020.
3 ans pour un projet photovoltaïque, c'est un bon objectif. Pour les petits projets, on doit même faire plus rapide. Et je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. Et c'est possible.
Il y a un autre dérèglement, je l'évoquais en parlant d'un basculement de l'écosystème qui est indissociable du dérèglement climatique, c'est celui de la biodiversité. Le cœur de votre combat et de notre combat. 60% des animaux sauvages ont disparu ces 50 dernières années. Les espèces disparaissent à un rythme 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle. Et sur les 98 500 espèces étudiées l'année dernière, aussi par l'Union internationale de la conservation de la nature, plus de 27 000 sont menacées. Nous avons maintenant documenté très précisément, vous avez documenté ce qui est l'autre grande transformation que nous sommes en train de subir, celle d'un basculement du vivant, d'un vivant qui recule pour la première fois, du fait de nos actions ou des conséquences inattendues de celles-ci, ou des effets combinés d'une série de nos actions et des transformations de certains écosystèmes.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alessandro Pignocchi, est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà lu votre livre et il est en train d'être en transition là?
Alors non, je pense qu'il n'a pas lu mon livre et je pense
encore
qu'il n'est pas en transition. Et s'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on raconte dans ce livre, notamment que on ne peut pas envisager une issue à la crise écologique un peu joyeuse et vivable sans se défaire du naturalisme et de l'objectification des non-humains pour aller vers un monde où on leur prêterait spontanément des intérêts, on les considérait quasiment comme des partenaires politiques. S'il y a quelque chose de vrai là-dedans, alors c'est complètement impensable que des personnes qui sont dont l'existence même, comme c'est le cas du président de la République, mais de une grande vaste partie de la grande bourgeoisie et des classes possédantes et dirigeantes dont l'existence est si intimement cousue dans les structures de notre monde, notamment les structures économiques. C'est absolument impensable que la bascule qu'on appelle vienne de là, quoi. Là encore, on peut faire un exercice de symétrisation qui est un concept qu'on emploie dans le livre, essayer d'inverser la situation et imaginer, et essayer de transposer dans notre cas quel type de bouleversement de ce qui nous fonde en tant que personne, ça impliquerait parce que si on sort les non-humains de la catégorie des objets qu'on peut exploiter à merci, on brise à la base la première étape d'accumulation du capitalisme, quoi. Et démolit aussi l'autonomie de la sphère économique qui, elle, a besoin d'objets pour vivre, quoi. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la transformation de vie que ça impliquerait. Et c'était intéressant ce que racontait Philippe de ce qui est en train d'arriver aux atchueurs en Amazonie et de leur progressive prolétarisation, finalement, où ils perdent les moyens par l'augmentation de la population, la destruction de la forêt, les incitations économiques à faire de l'élevage, etc. Ils perdent les moyens de leur autonomie alimentaire et de leur autonomie matérielle, à partir de quoi ils sont contraints de vendre leur force de travail pour survivre, quoi. C'est donc un bouleversement d'existence totale. Et là, ce qu'il s'agit de faire, c'est le trajet exactement inverse, c'est-à-dire de rompre la mécanique d'exploitation capitaliste en retrouvant des formes d'autonomie alimentaire. Mais pour ça, ça va assez loin, les bouleversements que ça implique, notamment une déprofessionnalisation de la politique. Donc il faudrait que le monsieur qu'on vient d'entendre passe une partie de sa semaine à cultiver des potagers, par exemple, faire du maraîchage, s'occuper des brebis. Et on imagine mal que des gens, encore une fois, qui sont si installés dans un mode de vie, qui en tirent de tels avantages, que ça puisse passer par là, quoi. Donc ce qu'on vient d'entendre est vraiment une sorte de vent qui n'a absolument aucune consistance, évidemment, quoi.
Philippe Descola, dépasser le naturalisme sous-entend de transformer les institutions?
Oui, bien sûr. Juste un exemple dans ce que l'on vient d'entendre à propos de l'énergie photovoltaïque. On conçoit en France les ressources d'énergie alternative, éolienne et photovoltaïque, sur le modèle des centrales nucléaires. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer la capacité pour des collectifs locaux, des communes ou des regroupements de communes, d'obtenir une relative autosuffisance en ayant quelques panneaux photovoltaïques ou une ou deux éoliennes, on fait des champs d'éoliennes et des champs de panneaux voltaïques qui sont ensuite transportés par des lignes à haute tension de la même façon qu'on produit l'électricité dans des centrales nucléaires. Donc il y a tout une façon de concevoir au fond ce qu'est l'autonomie individuelle et collective qui doit être profondément bouleversée. Et je pense que ce que avait dit le président Macron est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire au fond encourager au contraire des autonomies locales de toute nature, y compris dans les façons de se procurer de l'énergie. Alors il faut effectivement lutter contre les institutions. Bien sûr qu'il faut essayer pour chacun d'entre nous de dépasser cette séparation entre nous-mêmes, dont on sait maintenant en plus que un humain c'est quoi ? C'est un organisme humain et puis des milliards de bactéries influe en grande partie son comportement. Donc déjà, nous ne sommes pas des sujets autonomes de ce point de vue-là. Donc ce travail sur nous-mêmes est important pour essayer de se reconnecter, d'ailleurs pas simplement avec le vivant, mais avec les non-humains en général, avec les sources, les montagnes, les rivières et l'ensemble des choses qui méritent qu'on les apprécie et auxquels on peut s'attacher, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit ce livre, comme l'a dit tout à l'heure Alessandro, c'est qu'il faut aussi s'attaquer à des institutions qui, dans l'histoire du naturalisme et donc dans l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire depuis plusieurs siècles, ont stabilisé au fond des rapports de force qui sont difficiles à défaire autrement qu'en proposant des solutions alternatives radicales.
Donc changer en tout cas de logiciel, rompre avec la politique capitaliste, avec les lois de l'économie, avec la croissance et les fameux champs ça fait beaucoup de choses.
Encore une fois, quand on dit, là même, je reviens sur l'expression, ce que dit Macron, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ça dépend ce qu'il faudrait faire pour qui. C'est-à-dire qu'il y a toute une part des classes, des classes dominantes, consciemment ou non, qui ont pris acte que un changement de société, les types de changements de société massifs qu'il faudra envisager pour, encore une fois, une sortie de la crise écologique qui soit vivable pour tous, sont si massifs pour eux que c'est inenvisageable. Et du coup, la perspective politique qui est la leur, c'est d'imaginer que leur classe s'en sortira un peu mieux que les autres et un peu plus longtemps que les autres, qu'ils vont pouvoir profiter des dernières réserves un peu plus longtemps que les autres, qu'ils auront un accès aux ressources et une position d'un cynisme extrême. Et c'est qui n'est pas forcément conscientisé et pensé comme tel, parce qu'on a... Là, encore une fois, je pourrais faire référence à mon passé de sciences cognitives, mais on se convainc très facilement de récits qu'on construit a posteriori pour recouvrir des motivations peu avouables. On se convainc très facilement de leur réalité. Il y aura une étude d'ethnographie cognitive à faire dans les classes dirigeantes, et on trouvera des résultats assez contrastés, sans doute, selon les individus. Mais en tout cas, des projets type les champs de cellules photovoltaïques, etc., c'est finalement une radicalisation du projet moderniste.
Les méga-bassines, ça fait penser à ça aussi.
Les méga-bassines, évidemment, qui proposent vraiment de prendre le contrôle du cycle de l'eau sont vraiment une radicalisation des deux composantes du projet moderne, c'est-à-dire un contrôle absolu des forces de la nature, une substitution des dynamiques du vivant et des dynamiques naturelles par des processus technologiques répondant à des intentions humaines, et une destruction des formes d'autonomie des collectifs humains. Donc en privatisant l'eau, on continue la destruction des communs, tout ce qui permettait à des gens d'échapper aux lois du marché en ayant une certaine forme d'autonomie matérielle. Là, on achève le processus, puisque même l'eau sera captée dans des bassines géantes et distribuée à qui on considère qu'elle mérite d'aller. Et ce qui est ce « on », évidemment, c'est encore une fois, on revient sur les classes possédantes. Donc faut se méfier des expressions, ce qu'il faut faire ou pas faire, parce que ça dépend pour qui, quoi. Et
on peut rappeler juste peut-être le principe des méga-bassines,
d'envisager de lutter contre les sécheresses qui s'annoncent et qui sont déjà là, en stockant l'eau à ciel ouvert dans des immenses bassines en plastique. Grands réservoirs d'eau qu'on construit sur des terres fertiles en général. Et c'est vraiment un des grands projets du gouvernement et de la FNSEA main dans la main. Et encore une fois, c'est vraiment un cas d'étude intéressant, parce que ça cristallise tout ce qu'on est en train de dire, quoi, sur l'affrontement de deux mondes complètement antagoniste, l'un qui propose de durcir encore le projet moderne de contrôle de la nature et d'objectification générale tant des vivants non humains que des humains, et de couper toutes les possibilités d'autonomie matérielle, et un autre qui va exactement à l'inverse, qui est une forme de faire avec les dynamiques du vivant, en relocalisant toutes les formes de subsistance. Et il y a donc des luttes en ce moment, et vraiment ça va sans doute prendre de l'ampleur, et c'est pour les gens que ça intéresse, c'est vraiment le cas de figure, le cas d'école pour illustrer ce qu'on raconte dans ce livre. Il y a une mobilisation le 29 octobre à l'appel des soulèvements de la Terre, qui est une organisation qui regroupe des collectifs qui vont de la Confédération Paysanne à Extinction Rébellion. C'est un mélange vraiment très intéressant. Et donc le 29-30 octobre a stoppé le chantier de la plus grosse méga-bassine qui se prépare dans les Deux-Sèvres, vers Niort. Et voilà, vous pouvez aller voir ça sur le site des soulèvements de la Terre, et je pense que ça sera un moment vraiment extrêmement instructif et utile.
Alors dès lors, on peut se poser la question: comment changer le monde et quel autre monde faire advenir? Est-ce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est peut-être un de ces mondes possibles? Écoutez cet extrait de reportage diffusé sur France 3 le 16 janvier 2020.
Les 1600 hectares de ZAD sont devenus une zone agricole protégée, répartie entre anciens exploitants et la quinzaine de projets portés par le mouvement d'occupation. Il y a 2 ans, Erwan entamait les démarches pour cultiver ici des variétés anciennes de sarrasin. Sarrasin, aujourd'hui transformé en farine puis en galette, qu'il livre par centaines dans des AMAP. Si le projet est individuel, sa vie reste liée au collectif.
Je ne me dégage pas encore de revenus là, mais ça sera le cas. Mais pour moi, ça sera un revenu qui sera mis au pot commun, et on se questionnera sur les besoins des uns et des autres, quoi. C'est pas parce que je vends tant de galettes que je vais me payer tant.
Au cœur de l'ancienne ZAD, la ferme de Sylvain Fréneau. Une vie entière en lutte contre un aéroport. Depuis 2 ans, pour la première fois, l'éleveur sait que toutes ses génisses pourront grandir ici et qu'il peut désormais mener à bien ses différents projets.
On a eu le droit de passer en bio, alors qu'avant, pour passer en bio, il faut une visibilité de 5 ans. Comme on n'avait pas de visibilité, on n'avait pas le droit. Et là, ça fait 2 ans bientôt qu'on est en conversion bio, et cet été, on va pouvoir livrer du lait bio.
Si l'aspect agricole est à peu près réglé, il reste la question des habitats. Enracinés pendant la lutte, des caravanes et des cabanes abritent toujours près de 200 personnes qui entendent vivre ici différemment.
Philippe Descola, c'est un lieu que vous connaissez et que enfin, vous aimez bien y aller, hein, d'ailleurs, je crois. Est-ce que c'est vraiment ce lieu type dans lequel on détricote cette distinction entre nature et culture ?
Oui, parce que l'un des ferments du vivre ensemble des habitants de la ZAD, c'est une identification profonde avec le milieu de vie qu'ils ont décidé il y a quelques années déjà de protéger contre un aménagement pharaonique. Et cette identification, elle dépasse d'autres mouvements qu'on a connus auparavant de lutte contre des projets d'aménagement en ce que elle suppose en effet comme on le disait tout à l'heure, qu'à la fois il y a un changement d'institution, d'abord une lutte contre les institutions de l'État, bien sûr, qui a dû chèrement payer, parce que l'État, notamment dans les opérations de dégagement, comme l'opération César, a mis tous ses moyens militaires, en somme, pour expulser les habitants de la ZAD. Donc chèrement payé, mais c'est aussi une volonté de créer des institutions nouvelles, c'est-à-dire des formes de cohabitation dans un territoire qui échappe au productivisme, au consumérisme, qui soit fondé sur le respect de chacun, qui soit donc aux antipodes, au fond, des mécanismes d'exploitation et de domination du capitalisme, et qui, encore une fois, est fondé sur cette identité profonde entre les occupants et puis un milieu tout à fait singulier qui est un bocage qui n'a pas été exploité ou transformé pendant plusieurs décennies, une zone humide. Et lorsque, selon l'expression que tout le monde connaît, des zadistes qui disent « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », il y a quelque chose de très profond dans cette remarque, en ce sens que ils sont les porte-parole de ces non-humains avec lesquels ils s'identifient. Et en ce sens, donc, c'est une expérience sociale et politique tout à fait originale. Comme on en connaît relativement peu. Il y a d'autres ZAD, mais celle-ci a évidemment un effet d'exemplarité qui est pour nous, Alessandro connaît la ZAD beaucoup mieux que moi, je n'ai été que de rares fois, une exemplarité qui permet d'envisager que des formes d'association de ce type-là, d'expériences communalistes de ce type-là pourraient former des alternatives intéressantes à l'intérieur dans le cadre d'État, parce que il est très difficile d'envisager le dépérissement de l'État à l'heure actuelle, mais l'idée que des zones à défendre de ce type-là, que des expériences, des territoires alternatifs comme ça se développent suite à des luttes contre des aménagements, encore une fois, absurdes et coûteux et destructeurs des milieux, constituerait en quelque sorte un contrepoids à des États qui pourraient en retour avoir, et c'est un peu l'argument qu'on essaye de développer dans ce livre, en contrepoids, pourrait provoquer des transformations des États tels qu'ils existent à l'heure actuelle, à tout le moins en Europe, de façon à ce qu'ils soient à la fois plus sobres, plus démocratiques et moins obsédés par la courbe de la croissance et la rentabilité économique. Alors c'est peut-être une utopie. Mais
c'est pas évident de trouver des raisons de se réjouir aujourd'hui. Donc quand on en attrape une, évidemment, on la travaille.
Une terre d'avenir, c'est-à-dire au-delà de l'effet terre de lutte, est-ce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a un avenir ?
Ah oui, ça a un avenir, ça c'est sûr. Mais ça illustre ce qu'on a dit au tout début de l'émission sur le fait qu'il y a quand même cette ce mélange d'affects et d'idées qui travaillent relativement bas bruit pour l'instant la société, d'une conscience donc à la fois de l'inadéquation complète de notre façon de nous rapporter au non-humain, et un désir fort, et qui n'est pas seulement dû à la crise écologique, c'est aussi qu'on constate la pauvreté abyssale de nos façons de nous lier aux vivants non-humains, et on a, alors le « on », on ne sait pas qui ça désigne, mais en tout cas une partie conséquente de gens, quoi, conscience que le monde serait quand même beaucoup plus joyeux, intense et agréable à habiter si on composait des relations qui donnaient des possibilités vraiment à l'échelle psychologique plus riche avec les non-humains. Et donc là, ce que montre d'une certaine façon la ZAD, c'est qu'à partir du moment où on parvient à l'échelle d'un collectif relativement étendu, qui est certes petit, mais qui a quand même une taille conséquente, quoi, à desserrer les taux économiques par un peu ce que disait la personne qu'on a entendue, c'est que la mise en commun, la pratique des communs, retrouver des formes d'autonomie matérielle, mettre en avant l'entraide, et donc réincruster les règles économiques dans les décisions politiques, ne plus prendre des décisions politiques qui sont soumises à des impératifs économiques, mais qui peuvent s'offrir le luxe d'être déterminées par ce qu'on désigne collectivement comme étant quelque chose de désirable. À partir du moment où on parvient à ça, c'est pas rien, mais la solidarité avec les non-humains émerge. On est dans une période historique où ça émerge relativement spontanément d'un desserrage de l'étau économique, quoi. Et du coup, sur un territoire comme ça, c'est ça qui est impressionnant, c'est que même pour des gens qui n'avaient pas de sensibilité au vivant à la base, à partir du moment où on doit penser ces activités de subsistance dans un territoire comme ça, l'idée d'exploiter les non-humains comme de la matière, quoi, devient absurde spontanément, quoi. Et on se met vraiment, encore une fois, d'une façon assez... Et c'est une particularité de l'époque historique qu'on traverse. Ça n'aurait pas été comme ça il y a encore quelques décennies, quoi. On se met spontanément à les considérer comme des partenaires d'oppression, opprimés par les mêmes logiques que les humains, et donc des partenaires de lutte, quoi. My love, your devotion, perfect storms at the same emotion, infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room, baby, to remember me. The thing that's real, oh, 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 oh. What kind of woman would want to shame a man after I did everything, all that I? As the years gone by, we've grown with the pain, but I just can't keep standing in the rain. Give a little time, space to breathe, a little room, baby, to remember me. Remember.
C'était Remember Me de Gabriel Saint et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture en direct avec cette question posée. Comment faire advenir un autre monde respectueux du vivant, humain et non humain, changer de logiciel politique et de vision du futur des peuples d'Amazonie à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On envisage des mondes à venir avec nos deux invités, Philippe Descola, anthropologue, professeur émérite au Collège de France, et Alessandro Pignocchi, ancien chercheur en sciences cognitives et auteur de bande dessinée, et tous deux auteurs du livre Ethnographie des mondes à venir, un livre paru au Seuil dans la collection Anthropocène. Mais tout de suite, on part du côté de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Martine Vallot est notre œil du monde Planète et elle a choisi de revenir sur le scandale de la Seine démersale, un engin de pêche qui suscite des réactions de la mer du Nord à la Manche. Alors que cet engin, pourquoi cet engin, on peut se poser la question, fait parler de lui. Bonsoir Martine Vallot.
Bonsoir Aurélie. Pourquoi il fait parler de lui, cette Seine démersale, qu'on appelle aussi la Seine danoise ou Seine écossaise? C'est une invention qui est apparue il y a quelques années déjà en mer du Nord, mais elle est arrivée récemment dans la Manche, c'est-à-dire au large de la Normandie. Les pêcheurs artisans français lui reprochent essentiellement sa trop grande efficacité. Elle ne laisse aucune chance aux poissons de s'échapper. L'engin est très perfectionné, il se présente sous la forme d'un vaste filet posé sur le fond de la mer. Il est doté de deux bras, deux gros câbles en fait, qui vibrent et de cette façon soulèvent les sédiments du fond. Le nuage qui se forme ainsi effraie les poissons qui reculent et se concentrent vers le centre du filet où ils se retrouvent pris sans avoir le temps de s'échapper. Et l'une des caractéristiques de cette technique de pêche est précisément d'être très rapide. Elle opère en 1h30, alors qu'il faut plutôt 3 heures pour tirer un filet de chalut classique qui mesure, lui, environ 100 mètres de large. La Seine démersale, elle, ratisse 3 km carrés en une fois. Et elle a besoin de beaucoup de place alentour pour travailler. Aussi, il est demandé aux chalutiers, qui sont plus petits, de dégager la zone quand un senneur vient pêcher dans les eaux territoriales françaises. Car cela se passe dans les eaux territoriales près des côtes, c'est-à-dire jusqu'à 12 000 nautiques. Un patron pêcheur de Port-en-Bessin, dans le Calvados, m'a dit qu'après leur passage, il n'y a plus de vie dans le secteur pendant près de 15 jours. Ces bateaux d'une trentaine de mètres en général arborent un pavillon français, néerlandais ou belge, voire britannique. Mais en fait, ils appartiennent majoritairement à des armements sous capitaux néerlandais, puisque c'est le pays qui compte beaucoup dans la pêche européenne. À cause de cette efficacité redoutable, trop prédatrice pour la ressource halieutique, le Parlement européen a adopté un amendement demandant l'interdiction de cette technique en juillet. Seulement, cette décision doit être confirmée par les instances de l'Union européenne. Elle devait l'être lors d'un trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil européen fin septembre. Les pêcheurs normands espéraient vraiment que la France allait les soutenir.
Et cela n'a pas été le cas ?
Non, ce ne fut pas le cas. Non seulement les pêcheurs, notamment normands, en tout cas français, n'ont pas obtenu gain de cause, mais ils ont reçu le jour même une proposition d'accord interprofessionnel qui, en réalité, offre aux seineurs, étrangers ou non, davantage de droits de pêche dans les eaux territoriales des Hauts-de-France et de Normandie. Et il semble bien que leur sort était en fait scellé d'avance.
Est-ce qu'on peut dire que l'affaire est définitivement close ?
Alors, ce n'est pas sûr, car d'une part, elle a retenu l'attention de Bloom. C'est une association très active qui a alerté l'opinion publique au sujet de cette Seine démersale. Il y a eu plus d'une centaine de députés et le président de la région des Hauts-de-France qui se sont mobilisés pour dénoncer cette technique redoutable. Mais ils n'ont pas eu gain de cause, eux non plus. Il s'agit en fait d'un choix politico-économique qui va avoir des conséquences sociales sur le littoral. C'est l'éternelle histoire des petits contre les gros, c'est de ça dont il s'agit.
Donc affaire à suivre. Merci Martine Vallot.
Merci Aurélie, à bientôt.
Merci à vous et puis pour retrouver votre article sur le sujet, direction bien sûr notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou bien le site du journal lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
J'ai fait un accueil juste avant l'action de Strasbourg-Saint-Denis de Extinction Rébellion. Donc c'était juste après le premier tour. Et il y avait, je crois, 90 inscrits. On avait une salle avec plein de gens qui sont venus au final. C'était, je pense que c'était peut-être le record de l'année.
Pour vous, de quoi ce succès, entre guillemets, et l'expression?
Je pense que c'est un peu partagé par tous les jeunes ou moins jeunes même. C'est juste le ras-de-bol que, en fait, là, on se rend compte vraiment que là, les 5 ans de quinquennat encore de Monsieur Macron, ça va être encore un peu inutile. Rien n'a avancé. Et vraiment, les gens veulent se mobiliser. Et encore une fois, faire des marches, c'est bien gentil, mais ça va 5 minutes, quoi. Il faut faire plus que ça et voir faire des trucs choquants, enfin, choquants, bloquer des trucs de manière non violente, bien sûr.
La stratégie de base du mouvement, c'est pas tant d'aller bloquer telle infrastructure tel jour à 10 avec des cagoules, etc. On reviendra là-dessus après. On a une stratégie qui est une stratégie de massification. L'idée, ça reste quand même d'atteindre un nombre de gens dans le mouvement très élevé, plus que ce qu'il l'est actuellement, par des actions de blocage de masse, d'amener un changement sociétal, de forcer la main au gouvernement. C'est notamment au gouvernement qu'on s'adresse, aussi aux grandes entreprises.
Après l'élection de Macron, on s'est dit qu'il fallait peut-être s'engager autrement, parce que en fait là, d'aller voter ou machin, ça sert à rien pour l'instant. Et du coup, c'était l'idée de se dire comment faire autrement, et donc de venir à cette réunion d'information pour agir, peut-être.
Reportage diffusé sur France Info le 28 avril 2022. Alessandro Pignocchi pensait les actions révolutionnaires violentes et non violentes. Elle a raison, cette jeunesse ?
Oui, mais c'est vrai que c'est assez flagrant là, dans ce qu'on vient d'entendre. Il y a quand même une forme de constatation d'impuissance politique, parce que il parle de massifier, mais peut-être que encore une fois, on dit la sensibilité, la conscience de que quelque chose vraiment ne va pas et que une fenêtre politique est en train de s'ouvrir pour aller vers non seulement peut-être échapper à des catastrophes plus denses que celles qui nous attendent, mais aussi aller vers du mieux, quoi. C'est que la possibilité est là, mais on peine à trouver les moyens d'action. Et finalement, beaucoup de gens se sentent un peu prisonniers entre essayer de faire pression d'une façon ou d'une autre sur les dirigeants politiques en constatant que ça marche pas. Là, l'exemple des filets géants en est une, que ça soit par un plaidoyer doux ou même par l'instauration d'un rapport de force. Les intérêts des classes dirigeantes sont beaucoup trop cousus dans ce qui maintient ce monde en place pour imaginer que même sous pression, un changement passera par là. Et sauf que si on abandonne cette idée d'obtenir des changements qui passent par les courroies de la démocratie représentative classique, si on abandonne cette idée-là, on a l'impression que la seule alternative dont on dispose, c'est le renversement révolutionnaire global, quoi. C'est-à-dire on fait table rase des institutions et on réinstitutionnalise tout à partir de rien. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envisager sérieusement cette possibilité-là, mais c'est vrai que si on a qu'elle comme alternative, ça peut être un peu décourageant, quoi. Et du coup, c'est là que les luttes territoriales type ZAD ou ce qu'essayent de mettre en place les soulèvements de la Terre est porteur d'espoir, parce que c'est quand même une voie, pas intermédiaire, mais autre, qui propose de retrouver des formes d'autonomie sur des territoires, de créer de cette façon des populations qui parviennent à s'organiser en desserrant l'étau économique, en tissant d'autres liens au territoire. Et la critique qu'il aurait généralement renvoyée de vous allez faire votre truc dans votre coin et vous laissez le reste du monde inchangé, à notre avis est complètement infondée, parce qu'un État qui a des territoires autonomes dans ses marges, alors il faudrait qu'ils soient évidemment beaucoup plus nombreux et puissants qu'ils le sont aujourd'hui, fédérés en réseau avec une puissance collective bien, bien plus grande, mais l'existence de ces territoires autonomes ne laisserait pas du tout l'État inchangé, quoi. D'une part, ça permet à une partie de la population, qu'on espère la plus grande possible, d'échapper au chantage à l'emploi, à la nécessité de vendre sa force de travail pour survivre. Donc ça libère d'immenses espaces de possibilités. Et d'autre part, ça crée une population qui est extrêmement bien informée, consciente et déterminée à mener des actions, éventuellement de sabotage de toutes sortes, sur les structures du capitalisme. Et là, les mouvements des ZAD portent ces deux dimensions en elles. C'est-à-dire, à la fois, on s'oppose à des fondations du monde qu'on essaye d'affaiblir, et dans le même mouvement, on propose autre chose, quoi. C'est ce qui a manqué à XR pendant longtemps. On pouvait dire, oui, vous bloquez, vous demandez des trucs, mais on fait quoi à la place, quoi? Et là, il y a dans le même geste, une occupation territoriale montre, à la fois s'oppose à quelque chose et propose une alternative dans le même mouvement. Et là, les soulèvements de la Terre essayent de densifier cette façon de faire là. C'est ce que montre d'ailleurs ce qui illustre la présence dans le même mouvement de la Confédération Paysanne et d'Extinction Rébellion. C'est-à-dire, on va s'opposer à des projets de radicalisation de la modernité comme ces bassines géantes. Et dans le même mouvement, on essaye de faciliter des installations paysannes qui pensent leur activité de façon diplomatique avec le vivant non humain et enchevêtrés avec d'autres usages d'autres usages du territoire dans le but de retrouver des formes d'autonomie matérielle.
Philippe Descola, l'anthropologie peut devenir subversive alors, mais et à partir du moment où on vit peut-être de la désobéissance civile, la résistance civile, des actes peut-être plus violents. Je ne sais pas comment vous ressentez justement cette jeunesse. Hein, d'ailleurs, est-ce qu'elle exprime en vous et de quelle façon est-ce qu'à partir de là il y a cette vision des mondes de demain?
Pour en revenir à l'anthropologie, il y a un paradoxe dans l'anthropologie, c'est qu'elle est la fille du colonialisme. On a envoyé à l'époque des colonies, y compris d'ailleurs la première colonisation ibérique, des proto-ethnographes qui étaient des enquêteurs ibériques pour essayer de comprendre comment maîtriser ce vaste empire que l'Espagne et le Portugal s'étaient constitués dans les Amériques, et ensuite l'Amérique du Nord, bien sûr, avec les Français et les Anglais. Et puis dans le deuxième colonialisme, lorsque précisément la stabilisation de la distinction entre nature et culture s'est opérée en Europe, tout d'un coup on découvrait que dans toutes les régions du monde où s'étaient installés les empires coloniaux, il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Et donc il fallait faire cesser ce scandale, et donc les anthropologues sont partis, les ethnographes sont partis en masse pour essayer d'expliquer cette bizarrerie, cette énigme, ce scandale même peut-être. Mais en même temps, on l'a dit tout à l'heure, les informations que les anthropologues ramenaient, que les historiens aussi aller chercher dans les archives quant à d'autres manières de vivre des conditions collectives rendaient tout à coup extrêmement visibles les bizarreries et les iniquités du système moderne et du système capitaliste. Donc il y a une dimension révolutionnaire en ce sens dans l'anthropologie, parce qu'elle permet de jeter sur nos propres institutions un regard qui est teinté par celui de populations qui vivent de façon très très différente que nous. Alors, pour revenir à ces jeunes gens, oui, effectivement, c'est intéressant de voir que par rapport à ma génération, qui était plutôt... j'ai 73 ans, donc je parle d'il y a quelques décennies, envisager plutôt le grand soir qu'une des transformations progressives. Cette génération ne peut pas envisager une transformation du monde contemporain autrement que en passant par la lutte contre la déprédation du monde par le capitalisme. Alors ça pose la question des institutions. On évoquait tout à l'heure les institutions de la ZAD. Ce qui est original dans les institutions de la ZAD, c'est que ce sont des gens qui, au fond, se négocient en permanence, s'accommodent les uns aux autres en permanence. C'est pas une démocratie représentative, c'est une démocratie de tous les instants. C'est très coûteux, la démocratie de tous les instants, mais c'est probablement l'objectif vers lequel il faut tendre pour des États démocratiques modernes, c'est-à-dire dans lesquels les citoyens ne soient pas consultés de façon épisodique, mais aient leur mot à dire à tous les échelons, depuis l'échelon local jusqu'à l'échelon national, pour décider du bien commun.
Donc le côté participatif, hein, l'avènement de communes alternatives, avec le côté vraiment participatif, et en même temps, vous dites qu'il faut un État nécessaire, hein, parce qu'il faudra coordonner mondialement, ne serait-ce que la lutte contre le réchauffement climatique, la sixième extinction de masse. Donc vous n'abrogez pas non plus complètement un échelon supérieur.
Une organisation communaliste, il n'y a pas de limite de supérieur de taille, quoi. C'est sûr qu'en pratique, c'est quand même, ça tend à être petit, mais le Chiapas, qui est l'exemple le plus abouti, reste de petite taille, mais malgré tout, ça montre que la délégation de pouvoir à l'échelon supérieur qui vient systématiquement de l'échelon inférieur avec un mandat à la fois impératif et révocable, etc. A priori, ça peut prendre à des échelles extrêmement vastes. Mais c'est vrai que l'implausibilité d'une révolution qui instaure une organisation communaliste à l'échelle, je ne sais pas, même d'une nation, ça semble si implausible là dans les temps qui viennent, que c'est aussi pour ça qu'on dit, mais qu'on essaye de penser les vertus que pourrait avoir une cohabitation entre des réseaux organisés de façon communaliste et des États, et notamment les rétroactions positives que ces réseaux communalistes auront, le pouvoir de transformation qu'ils auront sur les États. Et on énonce un certain nombre de ces vertus-là, et la possibilité d'offensive coordonnée, comme celle que sont en train de mettre en place les soulèvements de la Terre, fait partie de ces vertus-là. Quoi.
Et alors, je cite juste cette phrase, et j'inviterai les auditeurs à plonger dans le livre, bien sûr, pour en savoir un peu plus sur cette vision des mondes de demain. Un archipel d'États sobres en CO2 fonctionnant selon le principe d'une démocratie continue, c'est-à-dire établie sur la participation personnelle des citoyens à l'action publique, et puis tout ça est décliné, pourquoi pas des structures fédérales servant d'interface entre les États et des non-humains dûment représentés. Vous parlez aussi des droits à la nature. On va se rapprocher de la fin de l'émission et j'aimerais bien quand même vous poser une question. Quelle est la plus belle expérience de compagnonnage avec la nature vécue par chacun de vous, Philippe Descola?
La nature, encore une fois, pour moi, c'est une abstraction. Donc, s'il y a...
Mais voilà, dans le sens de plantes, animaux, rivières, fleuves, montagnes, etc., etc.
S'il y a un compagnonnage, justement, c'est pas tellement le vivant, c'est le... pour moi, il n'y a rien de plus extraordinaire que le son cristallin d'un ruisseau de montagne. Je suis complètement transporté par cela. J'ai l'impression que je deviens le ruisseau que je peux même faire l'expérience mentale. C'est Aldo Leopold, le grand écologiste, qui avait évoqué cela, le trajet d'une molécule d'eau, m'imaginer filtrant à travers la montagne et se menant un parcours du ruisseau à la rivière, de la rivière à la mer, etc. Donc, c'est-à-dire me transformer moi-même en une molécule du monde. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et je l'ai ressenti une fois en Amazonie, sur le fleuve Pastassa, que connaît bien Alessandro. J'étais en pirogue avec des hachoirs, il y avait un haut fond, on a poussé la pirogue sur ce haut fond et je me suis rendu compte que on était à 50 km de la première habitation humaine en amont et en aval et que donc je faisais partie au fond j'étais un petit élément à l'intérieur du monde et c'est une chose pleinement satisfaisante, ça va de soi.
Alessandro Pignocchi.
Il y en aurait beaucoup, mais puisque la nature n'existe pas, je vais vous répondre par une expérience qui n'est pas purement naturelle, mais c'est on va dire des affects ressentis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le sentiment d'être maillé dans un collectif justement d'humains et de non-humains, un collectif que pour le coup j'avais choisi, qui m'était pas imposé, qui avait toute ma sympathie. Et alors évidemment qu'en plus ce collectif que je venais de découvrir avec émerveillement a été attaqué par 2500 flics, évidemment ça cristallise un peu tous ces affects-là. Mais en tout cas c'est des sensations, des impressions, des idées qui étaient vraiment neuves, quoi. Et qu'en fait, tant qu'on ne s'est pas frotté à ces mouvements-là, on n'est même pas capable de les imaginer et de savoir ce que ça va vous faire. Et c'est quand même assez enthousiasmant de découvrir, des terrains affectifs nouveaux dont le monde économisé et individualisé nous prive complètement, quoi. Nous ferme toute une dimension des potentialités de l'esprit humain et les redécouvrir, alors un peu tardivement pour ce qui me concerne. Et donc, c'est vraiment se sentir maillé, solidaire d'un collectif d'humains et de non-humains, et assez vertigineux et assez exaltant, quoi. Et peut-être peut-être nos grands-parents avaient l'occasion d'éprouver des affects qui ressemblaient à ça, mais pour nous c'est devenu une possibilité assez rare. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on ne s'y est pas frotté, on n'est pas capable d'imaginer ce que ça va vous faire, quoi.
Merci à tous les deux. Merci Philippe Descola, Alessandro Pignocchi. Je rappelle le titre de votre livre original et passionnant, Ethnographie des mondes à venir, édité au Seuil dans la collection Anthropocène. Et bien sûr, la bibliographie, les liens, les autres dossiers sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à puiser dans l'anthropologie de la nature, dans l'anthropologie du vivant et de la nature et l'histoire, de quoi nourrir vos pensées et dessiner un autre futur.